Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour, Le Monde aujourd'hui, édition du lundi 19 février 2018. En direct de Washington, Idrissa Seloudia
et Anne Albertson.
Pour commencer, les titres.
Début du dialogue ce lundi au Togo entre le pouvoir et l'opposition.
Nouvelles audiences de la Cour internationale de justice sur le contentieux entre la France et la Guinée équatoriale au sujet de l'immunité diplomatique du fils du président Teodoro Obiang-Nguema.
Au Burkina Faso, mort du cinéaste Idrissa Ouédraogo.
Ici aux États-Unis, projet de manifestation des survivants de la tuerie du lycée de Parkland en Floride pour réclamer le contrôle des armes à feu dans le pays.
Et ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco.
Pour l'instant, le journal.
Au Togo, le dialogue dit de la dernière chance doit s'ouvrir ce lundi entre le pouvoir et l'opposition. Ils ont enfin décidé de se réunir autour de la même table pour tenter de vider 6 mois de crise politique. Le régime du président Fornia Singbe fait face à une très forte contestation populaire qui a plongé le pays dans l'instabilité. Eric Manirakiza.
Le rétablissement de la constitution de 1992 qui prévoyait 2 mandats présidentiels, la transition politique au Togo et les réformes électorales constituent les points essentiels de ces assises. La coalition de 14 partis d'opposition et le parti au pouvoir unir sont représentés par 7 délégués. La participation du gouvernement devrait être discutée durant le dialogue. Le président ghanéen Nana Akufo-Addo, l'un des facilitateurs de cette crise, va accompagner l'ouverture des discussions. L'ONU, l'Union européenne et les ambassades d'Allemagne, de France et des États-Unis à Lomé ont salué la tenue de ce dialogue. Les acteurs politiques togolais sont encouragés à travailler de bonne foi pour aboutir à un consensus. Ces dernières semaines, l'entourage de Fornia Singbe a répété dans la presse locale qu'il ne serait pas question de discuter du départ immédiat du chef de l'État ni d'un engagement de sa part à quitter le pouvoir. Sur les réseaux sociaux, nombreux sont les Togolais sceptiques et critiquent la tenue d'un énième dialogue depuis l'avènement du multipartisme au début des années 90. Une quinzaine de dialogues et de pourparlers se sont tenus à Lomé sans jamais déboucher ni sur une alternance politique ni sur un changement majeur.
La justice nigériane a libéré 475 nouveaux membres présumés de Boko Haram. À l'issue de procès de masse, la majorité des personnes inculpées n'ont pas été condamnées faute de preuves suffisantes. Mohamedou Oumfa.
D'après le ministère de la Justice, des centaines de membres présumés de Boko Haram ont comparu la semaine dernière devant un tribunal installé dans une base militaire à Kainji, dans le centre du pays. Les personnes libérées seront prises en charge dans leurs états d'origine pour une réhabilitation appropriée. Le tribunal a aussi ordonné à ces états de leur fournir une réhabilitation dans un centre approprié avant qu'ils ne retrouvent leur famille. Les personnes atteintes de troubles mentaux ou avec des problèmes de santé doivent également recevoir des soins médicaux appropriés. La majorité des procès les premiers du genre au Nigeria se sont déroulés à huis clos, entraînant les critiques des organisations de défense des droits de l'homme. Au total, 1669 personnes étaient présentées à la barre à l'ouverture des audiences qui avaient démarré en octobre. Un premier groupe de 468 avait alors été libéré au bout de quelques jours.
La Cour internationale de justice tient à partir de ce lundi de nouvelles audiences sur le contentieux opposant la France à la Guinée équatoriale qui accuse Paris d'avoir violé l'immunité diplomatique du fils du président équato-guinéen. Les relations entre les deux pays sont tendues depuis que la justice française a ouvert en 2016 un procès contre Théodorine Obiang, fils du président Teodoro Obiang et lui-même vice-président équato-guinéen, accusé d'avoir pillé les caisses de l'État et d'avoir acheté des propriétés somptueuses dans les endroits les plus chers du monde, et ce, dans le cadre de l'affaire dite des biens mal acquis.
Au Soudan, les autorités ont libéré hier des dizaines de militants, dont certaines figures de l'opposition, arrêtées le mois dernier lors de protestations contre la hausse des prix. Leur libération intervient 3 jours après que l'ambassade des États-Unis à Khartoum a condamné la détention de ces militants, affirmant qu'ils étaient détenus dans des conditions inhumaines et dégradantes.
Au Zimbabwe, le dirigeant de l'opposition, Morgan Tsvangirai, sera enterré demain dans son village natal de Buera, à 250 km au sud de Harare. Il est mort mercredi à l'âge de 65 ans d'un cancer du côlon. Des détails avec Jean-Roger Bion.
La dépouille de Morgan Tsvangirai est arrivée samedi à l'aéroport d'Harare en provenance d'Afrique du Sud, où il est décédé après son hospitalisation. Ses partisans et des responsables de son parti, le Mouvement pour le Changement Démocratique, le MDC, ont entonné des cantiques et des chants de leur parti à l'arrivée de son avion. Le corps a été transporté dans un camp militaire où les héros nationaux sont accueillis avant leur enterrement. M. Tshangirai avait rencontré en janvier à sa résidence son ancien adjoint Welshman Nkoubé et avait laissé entendre qu'il n'allait pas vivre assez longtemps pour assister aux élections annoncées en juillet. En 2008, Morgan Tsvangirai avait réussi à s'inviter aux portes du pouvoir en arrivant en tête du premier tour de la présidentielle. Devant le déchaînement de violence ordonné par le pouvoir contre ses partisans, il avait préféré renoncer à se présenter au second tour, permettant à Robert Mugabe d'être réélu. Ancien syndicaliste, Tsvangirai a dirigé le MDC depuis sa création en 1999 et représentait le plus grand défi pour la ZANU-PF.
Le cinéma africain est en deuil. Il vient de perdre le réalisateur burkinabé Idrissa Ouédraogo, son premier vainqueur de l'étalon de Yenenga du Fespaco. C'était en 1991 avec son film Tilay. Idrissa Ouédraogo est mort à l'âge de 64 ans des suites d'une maladie. Il a eu pratiquement plus de 30 ans de vie dans le domaine du cinéma. Nous y reviendrons en seconde partie de cette édition.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Ici aux États-Unis, les survivants de la tuerie du lycée de Parkland en Floride ont annoncé des manifestations fin mars à Washington et dans d'autres grandes villes du pays. Ces élèves veulent réclamer un contrôle plus strict des armes à feu. Des détails avec Fatouma Alimassi.
Baptisée « Marche pour nos vies », la manifestation de Washington devrait inspirer d'autres rassemblements à travers le pays. D'après l'un des organisateurs, l'objectif est de créer une nouvelle normalité où ce serait considéré comme une honte pour les hommes politiques d'accepter l'argent de la NRA. De nombreuses voix se sont élevées depuis le massacre pour dénoncer la mainmise sur le monde politique du puissant lobby pro-armes National Rifle Association, NRA, qui défend la vente libre des armes personnelles. Le lobby s'oppose en effet à toute limitation au nom du deuxième amendement de la Constitution qui garantit le droit de posséder et de porter une arme. La fusillade de Floride a donc ravivé ce débat récurrent aux États-Unis. Emma Gonzalez, une étudiante, a dénoncé les liens entre le président Donald Trump et la NRA. Elle estime que tous les étudiants américains devraient s'impliquer dans ce débat car tous courent le même danger.
Toujours aux États-Unis, le président Donald Trump a déclaré hier croire que la Russie avait largement réussi dans sa tentative de perturber le paysage politique américain avec l'ingérence de Moscou dans la présidentielle de 2016 et ce à cause des enquêtes que cette ingérence a engendrées et qui durent depuis des mois. C'était l'objectif des Russes de créer la discorde, la perturbation et le chaos, a soutenu hier M. Trump dans un tweet, ajoutant qu'avec toutes ces auditions de commissions parlementaires, enquêtes et haine du Parti républicain, les Russes ont dépassé leurs rêves les plus fous et ils se moquent de nous à Moscou.
Dans une série de tweets, le président américain a par ailleurs continué à fustiger l'enquête sur d'éventuels liens entre sa campagne électorale et les Russes. Le procureur spécial Robert Mueller a inculpé la semaine dernière 13 citoyens russes et 3 entités russes pour leur campagne illégale de propagande et de désinformation en 2016 pour aider M. Trump à gagner.
Deux Palestiniens ont été tués hier par des tirs israéliens dans la bande de Gaza lors d'une poussée de fièvre qui a ravivé le spectre d'une confrontation dans l'enclave en proie à une crise aiguë. Constamment présente dans les esprits israéliens et palestiniens, la vision d'un nouveau choc des armes a été réactivée quand 4 soldats israéliens ont été blessés samedi, dont 2 gravement, dans l'explosion d'un engin piégé le long de la grève de la barrière israélienne entre Israël et le territoire palestinien.
Fin de ce journal sur VOA Afrique. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui.
La Minute Éco, John Linden.
En 2020, l'Afrique va lancer de nombreux projets gaziers de l'Égypte au Mozambique en passant par le Sénégal et la Mauritanie. Les réserves de gaz naturel sont gigantesques. Ces projets permettront à l'Afrique de se repositionner sur la carte de la fourniture énergétique mondiale. Le cacao a repris de l'envol la semaine dernière. Jeudi, les cours du cacao ont atteint à Londres 1514 livres sterling la tonne et la cotation new-yorkaise a profité de la faiblesse du dollar pour bondir vendredi à 2145 $ la tonne. C'est la performance la plus élevée depuis près de 3 mois. Le marché du café s'assoupit, le Robusta s'est affaissé vendredi à Londres, l'Arabica coté à New York s'est également replié. Les prix du sucre ont légèrement flanché sur la semaine. À Londres, la tonne de sucre blanc pour livraison à mai valait 356,70 $ contre 361,90 $. À New York, la livre de sucre brut pour livraison valait 13,29 cents contre 13,83 cents pendant la même période. Le Parlement tunisien a validé la nomination de Marwan El Abassi comme gouverneur pour la Banque centrale. D'après M. Abassi, l'inflation, le déficit de la balance de paiement et l'économie parallèle minent l'économie du pays. Il a parlé des défis les plus difficiles. Par exemple, le déficit commercial a atteint en 2017 près de 5 milliards d'euros.
À présent, les sports avec Élisée Onkpatine. Élisée, bonjour.
Bonjour Idrissa et bonjour à tous.
Football, le tournoi féminin de la zone B de l'UFOA se poursuit à Abidjan.
La phase de poule touche à sa fin. Le groupe A a livré hier son verdict. La Côte d'Ivoire et le Ghana se sont qualifiés pour les demi-finales. Le pays hôte domine largement le Niger 7-0 pour terminer en tête de ce groupe. Les Ghanéennes, deuxième suite à leur victoire de 4-1 face au Burkina Faso, affronteront le Nigeria en demi. Les Ivoiriennes connaîtront leur adversaire aujourd'hui à l'issue du dernier match du groupe B entre le Sénégal et le Mali.
En Guinée, la fédération étudie 80 candidatures pour le poste de sélectionneur.
Oui, au terme de l'appel à candidature pour succéder à l'AP Bangoura comme sélectionneur, la fédération guinéenne a indiqué avoir reçu plus de 80 dossiers pour être entraîneur des séries A et B, notons que l'instance n'a pour l'heure révélé aucun nom.
Préparation pour le Mondial 2018 et l'Égypte affrontera la Belgique en mai prochain.
Deuxième adversaire de la Tunisie en phase de poule de la Coupe du Monde 2018 en Russie, la sélection belge a fixé un autre match amical. Les camarades de Marouane Fellaini vont se mesurer à l'Égypte. La rencontre a été programmée pour le mois de mai, mais la fédération égyptienne n'a pas encore communiqué la date exacte.
Au Bénin, la fédération de tennis de table a un nouveau président.
Oui, et son nom, Trinité Serge Soglo. Il succède ainsi à Ferdinand Sounou à l'issue d'une assemblée générale élective tenue hier, où il a réuni 26 voix contre 22 contre son challenger. L'homme reconnaît que ça a été difficile, mais s'est dit satisfait et promet faire connaître cette discipline. On écoute Trinité Serge Soglo.
Le sport, c'est une famille, c'est la joie. Il n'y a pas de clan. Nous sommes ensemble et nous devons travailler ensemble. Que ce soit ceux qui ont voté pour gauche ou à droite, aujourd'hui nous sommes ensemble et nous devons donner une autre ligne, bien sûr positive, à notre discipline. Quelles voilà seront vos priorités? Voilà. C'est la formation à la base, la formation des enfants. Les plus jeunes dans les écoles, dans les lycées, dans les collèges. Sans formation, il n'y aura pas d'équipe, il n'y aura pas de joueurs, il n'y aura personne.
Badminton à présent pour dire que l'île Maurice triomphe au championnat d'Afrique.
Le pays s'offre le doublé hommes et dames au championnat d'Afrique 2018 à Alger. Kadfou Koun s'est en effet imposé pour la 4e édition de suite lors du tournoi féminin, tandis que Georges-Julien Paul a été sacré pour la première fois au tournoi masculin.
Cyclisme est l'épilogue des championnats d'Afrique au Rwanda.
Oui, et l'Érythrée est décidément la nouvelle nation phare du cyclisme sur route africain, comme en 2017. Elle l'a prouvé en dominant les championnats d'Afrique 2018 à Kigali. Avec 10 médailles d'or sur 16 possibles, les cyclistes érythréens se sont régalés. À ces sacres, il faut aussi ajouter 5 médailles d'argent et 5 de bronze.
Jeux olympiques d'hiver 2018 à présent et les Africains peinent à s'illustrer.
Effectivement, piètre performance pour les athlètes africains en lice en ski de fond. La Togolaise Mathilde Amivi Petit-Jean a pris la 83e place parmi les 90 concurrentes. La Malgache Mialitina Klek s'est classée 48e sur 58 concurrentes dans le slalom géant féminin, soit près de 19 secondes derrière l'américaine Michaela Furni, médaille d'or. La Kenyane Sabrina Simader n'a même pas terminé l'épreuve en ski alpin. Et puis on finit avec vous Idrissa, le All-Star Game, le grand rendez-vous annuel des meilleurs joueurs de la NBA. C'était cette nuit à Los Angeles.
Oui, un match décidé dimanche soir à la dernière minute avec la victoire de l'équipe de LeBron James sur celle de Stephen Curry, 148 à 145.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Sédoudia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Au Bénin, la gouvernance Talon à l'épreuve de la fronde sociale, plus d'un mois que cela dure, et rien ne semble plaider en faveur d'un retour à la normale, selon notre correspondante sur place. Malgré la rencontre entre le président Patrice Talon et les partenaires sociaux le 6 février dernier, la grève est toujours d'actualité dans certains secteurs de l'administration publique. De Cotonou, Ginette Fleur à Dandé.
En votant massivement pour Patrice Talon le 20 mars 2016, les Béninois étaient loin de s'imaginer que près de 2 ans après, ils seraient obligés de paralyser l'administration publique afin de se faire entendre. À la rencontre gouvernement syndical, les partenaires sociaux se sont montrés clairs quant aux revendications qui leur sont chères. Mondachiro Bachabi est le secrétaire général de la Confédération syndicale des travailleurs du Bénin.
Nous sommes allés en grève parce que la vie devient chère et que notre pouvoir d'achat n'est plus en mesure de soutenir le marché que nous fréquentons. Nous sommes allés en grève parce que nous avons convenu dès le départ que nous voulons d'une gouvernance apaisée sur les réformes. On peut ne pas s'entendre, mais nous devons en parler. Et que nous devons nous entendre sur les sacrifices que chaque parti doit consentir pour que le pays avance.
Après plus de 5 heures de négociations, le président Patrice Talon parle d'une avancée louable pendant que les syndicalistes partent insatisfaits, même si les échanges se sont déroulés dans une bonne ambiance. Noël Chataré de la Cosi Béni explique.
On peut dire que nous sommes un peu restés sur notre faim parce qu'il y avait de grandes attentes qui étaient placées dans cette rencontre. Donc, mais avec tout ce qui a été dit, même si les échanges ont été des échanges courtois, nous n'avons pas de concret pour aller vers les travailleurs. Or, les travailleurs attendent du concret. Mais il a promis que quelque chose sera fait. Il fera ce qui est faisable, mais il ne fera pas tout ce qu'on lui demande. Donc, on est toujours à l'étape de promesses, d'orientations qui ont été données par le chef de l'État. Et donc, nous sommes un peu restés sur notre faim.
Face à une épreuve sociale qui pourrait plomber son mandat, Patrice Talon multiplie les rencontres avec les confessions religieuses afin de l'aider au mieux à gérer cette crise qui prend de l'ampleur. La conférence épiscopale a clairement exprimé son inquiétude sur la situation sociale du pays. Monseigneur Vito Agbanou portant la voix de ses pères.
Si nous ne pouvons pas accepter que notre pays soit pris en otage par quelques-uns de ses fils, nous souhaitons vivement que les discussions en cours trouvent enfin sous votre mandat une solution durable. Et nous désirons ardemment pour nos concitoyens la jouissance de leur droit à la santé, à l'éducation, à la justice et au développement à tous les niveaux.
Les grèves dans tous les secteurs d'activité ne sont pas de nature à garantir une gouvernance apaisée, une bonne politique de développement. Face à la préoccupation de la conférence épiscopale, le président de la République a expliqué que même si les revendications des travailleurs sont légitimes, certains l'utilisent de façon abusive.
Nos travailleurs sont devenus les champions de la grève et nous avons réussi à révéler jusqu'à quel point la grève peut être nuisible, dangereuse, abusive dans certains domaines. Les revendications peuvent paraître parfois bien légitimes. C'est vrai, la vie est sacrée. On ne peut pas utiliser la vie comme moyen de négociation, comme moyen de chantage. Ce moyen, cette arme de négociation est disproportionnée.
Le Comité fédéral national a appelé à durcir le ton et à obtenir du gouvernement la satisfaction complète de toutes les revendications avant de déposer les armes. De Cotonou, Ginette Fleur à Dandé pour VOA Afrique.
Au Congo-Brazzaville, le conflit armé dans le Poule a causé le déplacement de plus de 130 000 personnes et elles ne reçoivent pas régulièrement de l'assistance. Les organisations humanitaires, dont Caritas Congo, appellent à une aide plus structurée dans le Poule. De Brazzaville, le reportage de Nguela Ngoussou, notre correspondant sur place.
Depuis leur sortie des villages, plusieurs familles des déplacés du Poule attendent toujours d'être prises en charge par les autorités. Leur situation, déjà dramatique, se dégrade au jour le jour, voici 2 ans. Joe Washington et Bina, à la tête d'une fondation qui assiste souvent ces sinistrés, déplorent ce manque d'assistance.
doit trouver des solutions. Mais vous n'avez pas l'impression, depuis un certain moment, on ne parle plus de rien. On parle de cessez-le-feu, qui est une bonne chose, mais à part cela, les populations, qu'est-ce qu'on dit des populations? Et ça, c'est un problème. Et moi, je considère simplement que c'est un abandon.
Caritas Congo indique que l'assistance qui s'organise autour de ces déplacés est encore très insuffisante. Alain Robert Moukouri est le secrétaire exécutif de Caritas Congo.
En termes de besoins humanitaires, il y a une réponse, mais elle est encore insuffisante, parce qu'il y a aussi des besoins en termes d'accès aux soins de santé. C'est vrai qu'on a des programmes avec l'UNICEF, mais avoir une couverture plus structurée et élargie sera une bonne chose pour soulager les besoins des déplacés.
Dans les familles d'accueil où elles vivent, ces populations traversent des moments de grande misère. Pascal Babakana, un déplacé de Mabenga installé dans une famille en Gangalingolo, témoigne à VOA Afrique.
Depuis que je suis arrivé ici, on s'est débrouillé pour avoir quelque chose. Aller d'abord en brousse, chercher quelque chose à manger, vendre même les bois. C'est ce que nous amenons ici, là, pour vivre. Il faut amener le bois et venir vendre ça à Gangalingolo.
D'autres déplacés racontent ici leur déboire à Brazzaville.
Mais on dort seulement sur la terre. Pas de moustiquaires, vraiment, on souffre, on doit repartir. Même s'il n'y a plus rien, mais on doit repartir. Parce que ici, là, vraiment, ça ne tient pas.
Ma situation à Brazzaville est très malheureuse. Il y a des moments où je passe les nuits dans les marchés. Il y a des moments où je passe les nuits dans les vieilles funèbres. Jusqu'à ce jour, rien de concret, rien de concret.
Récemment, l'ambassadeur des États-Unis au Congo, Todd Haskell, a apporté une assistance à ses déplacés. L'ONG Lucudoc, par son président Gaspard Mienantsima, évalue ici la distribution de cette aide, accusant par ailleurs le gouvernement de n'avoir rien fait jusqu'alors.
Tout dernièrement, nous avons appris que les Américains, effectivement, venaient encore de servir quelques déplacés. Nous avons fait la ronde des ménages pour vérifier si tout le monde, cette fois-ci, a été pris en ligne de compte. Malheureusement, c'est le même scénario qui revient. Une partie a été servie, une partie délaissée pour compte. Pourquoi cette discrimination, d'abord abandonnée jusqu'aujourd'hui par notre gouvernement, qui jusque-là ne fait aucun geste sur ces déplacés?
Après la signature des accords de paix dans le Pool, les populations attendent désormais le calendrier de retour dans leur village. Nguela Ngusu, Brazzaville, VOA Afrique.
Plus de 11 millions de Nigérians, pour la plupart des diplômés, sont au chômage ou à la recherche d'un emploi. Nombreux ont donc décidé d'entreprendre des initiatives dans plusieurs domaines pour surmonter les difficultés de la vie. Notre correspondant Gilbert Tamba est allé à la rencontre de l'un d'entre eux.
Yulana Ilacha, 42 ans, a installé son atelier de recyclage à Karu, à 20 km de la capitale fédérale du Nigeria.
Je produis des machines agricoles de transformation, comme celle-là est une machine pour le traitement de l'huile de palme. Vous le voyez,
c'est un concasseur,
mais qui est toujours en construction. Nous avons plusieurs
autres comme ça.
Pour lui permettre de faire ses fabrications de machines, Yunana et son équipe font le tour des compagnies pour ramasser les matériels abandonnés ou qui n'ont plus d'usage pour ces compagnies.
Les compagnies qui ont utilisé des matériels et qui les abandonnent, elles n'ont plus besoin de ces matériels. Nous les ramassons et nous essayons de les transformer à autre chose que les gens vont utiliser. Et c'est à partir de cela que nous gagnons aussi de l'argent.
Il s'est inspiré d'utile de l'exemple de certains jeunes qui se battent pour eux-mêmes et qui n'attendent pas les offres d'emploi du gouvernement. Plus d'une dizaine de jeunes se trouvent dans son atelier pour apprendre à se débrouiller comme lui. Emos Ganoua, 39 ans, faisait la mécanique avant de rejoindre Yunana qu'il considérait très modèle.
Je travaillais avant avec Dantata comme un mécanicien de bulldozer. Mais lorsque j'ai perdu mon travail, je n'avais plus rien à faire. J'ai continué à chercher du travail sans succès. Et c'est à partir de ce moment que je suis venu voir Yunana. Comme il est mon promotionnaire à l'école, nous faisons la même spécialité et réellement, dès que je suis venu ici pour travailler avec lui, j'ai commencé à comprendre l'importance de ce travail.
David Estefanos, lui, a 26 ans et il est avec Yunana depuis 2009. À ce jour, il est capable de fabriquer certaines machines lui-même.
Comme les machines de traitement de la farine, des arachides, ainsi que la machine à granules pour des animaux.
Un succès qui a permis à Yunana de se prendre en charge pour poursuivre ses études universitaires. Et comme lui, de nombreux Nigériens prennent des initiatives similaires pour développer des idées novatrices pour changer leur sort. Gilbert Tamba, Abuja, VOA Afrique.
Je le disais en début d'émission, le réalisateur et producteur burkinabé Idrissa Ouédraogo est décédé hier à Ouagadougou à l'âge de 64 ans. Il était une figure emblématique du cinéma africain des années 1980-2000. Auteur d'une quarantaine de films, Idrissa Ouédraogo a été récompensé dans les plus grands festivals. Pour un témoignage, Eric Manirakiza a joint à Ouagadougou un ami du défunt, l'artiste et président du festival de Récréatréal au Burkina, Étienne Minungu.
Idrissa Ouédraogo laisse un héritage absolument immense et étonnant, pas seulement pour les Burkinabés, mais pour toute l'histoire de la cinématographie africaine. Et sans doute que c'est un des réalisateurs qui a été le plus prolifique aussi. Il laisse une cinématographie foisonnante, créative, inventive de ces dernières années.
Son film Tilaï en 90 a reçu le grand prix du jury à Cannes. Qu'est-ce qu'il met en exergue dans ce film ?
Tilaï, c'est un drame familial, c'est un drame aussi de génération, mais c'est aussi une histoire d'amour, mais c'est une question d'honneur. Ce qui est important dans le cinéma de Idrissa Ouédraogo, c'est qu'il a beaucoup plus que sans doute un des meilleurs, un de ceux-là qui avait réussi à mettre en scène la relation entre les êtres humains. Et dans cette relation, il avait une manière de filmer les personnages, de filmer leur tension entre eux, de manière tellement belle, mais en même temps aussi de pouvoir pénétrer la profondeur de leur humanité. Et c'est ça, je crois, qui a été célébré par la critique et qui a valu ce grand prix.
Est-ce un cinéaste moderne ou traditionnel ?
Idrissa Ouédraogo est un cinéaste très engagé, c'est un cinéaste militant. Il n'a pas de problème avec la question de modernité-tradition. C'est un cinéaste de son époque et de son temps. Mais en même temps aussi, c'est presque intemporel parce qu'il essaie de saisir la beauté des espaces, il jouait avec les émotions. Et je crois que c'est celui-là qui a été sans doute le plus loin possible dans la manière de rendre compte de l'humanité et de ses contradictions et de ses luttes internes, mais aussi de sa beauté. Il a aussi filmé le continent africain que quiconque. Il savait donner une poésie à ses images, à ses photos, et je crois que c'est ça aussi qui était son génie, qui était son talent.
Vous étiez l'un de ses grands amis, vous avez beaucoup causé. Quel était son objectif, en fait, à travers tous ces films ?
Idrissa Ouédraogo a toujours considéré que le cinéma devait aider l'Afrique à avancer, devait raconter la mémoire et le récit des populations, que le cinéma devait accompagner tout effort de développement et que, en même temps aussi, c'est par le cinéma que l'Afrique pouvait aussi aller au rendez-vous avec les autres civilisations du monde. Il avait un souci majeur. Il n'aimait pas la manière dont l'Occident représentait l'Afrique. Il avait envie que ce soit les Africains eux-mêmes qui présentent au monde entier le propre visage de leur continent. Et donc, tout son travail, il était attentif à cela. La présence de l'Afrique dans le monde, sa présence authentique, mais en même temps aussi, un cinéma militant parce qu'il pensait que le cinéma pouvait participer à l'amélioration des conditions de vie des populations, à l'expression de leur liberté, leur créativité, et surtout pouvait les mobiliser aussi sur les chantiers de développement et sur les chantiers de bien-être. Il était absolument convaincu là-dessus.
C'était l'artiste Étienne Minungu. Il est président du Festival des Récréatrales au Burkina.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com, à tout de suite.
Bonjour, c'est Nicolas Pineau. Tous les lundis soirs, VOAAfrique met le sport à l'honneur. Les résultats, les analyses et vos commentaires, chers auditeurs, rendez-vous en direct dans Sporama 19h, temps universel. Pour participer, c'est très simple, vous pouvez nous appeler en direct ou laisser vos commentaires et numéros de téléphone sur notre page Facebook. A très vite, sur le terrain de VOA Afrique.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi. À la console, Daryl Smith. Merci à Anne Albertson pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Idrissa Seloudia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.